Écoutez, on va commencer parce que aujourd'hui nous avons du courrier. C'est pas des cartes de vœux, mais c'est quand même des lettres. Avec des groupes plus petits, ça m'arrive de distribuer à chacun une enveloppe qui lui est adressée. Nous avons du courrier puisque aujourd'hui nous allons lire 7 lettres et même 9. Puisque avant de lire les 7 lettres qui sont dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous allons en lire 2 qui n'appartiennent pas au livre de l'Apocalypse, mais qui sont un échange épistolaire entre Trajan et Pline le Jeune. Donc de la correspondance de l'Antiquité. Et pourquoi est-ce que nous allons lire cette correspondance de l'Antiquité ? C'est parce qu'elle nous donne, d'une certaine façon, un arrière-plan historique pour voir un peu l'ambiance dans laquelle l'Apocalypse de Jean a été écrite. Alors je vais lire cette lettre pour que vous puissiez l'entendre, et puis nous lirons ensuite ensemble, mais c'est l'un ou l'autre d'entre vous qui liront à la suite les sept lettres, enfin sept lecteurs, j'aurai besoin de 7 lecteurs pour les 7 lettres de l'Apocalypse que je vous distribuerai ensuite et que nous allons travailler un peu de façon synoptique, c'est-à-dire en colonnes les unes à côté des autres pour voir comment leur structure se répondent et comment il y a aussi des variations entre chacune de ces lettres de l'Apocalypse. Donc je vous invite à prendre la feuille rose. Alors j'ai pris du rose, il n'y a aucune valeur symbolique à cette couleur. C'est simplement pour varier les couleurs et aussi parce que... bon voilà, c'est tout, pour varier les couleurs. J'attends que madame s'installe peut-être. Voilà, on vous attend pour... Parce que nous avons du courrier. Le facteur est passé, nous avons du courrier. Nous avons une lettre de Pline à l'empereur Trajan. Alors Pline, comme je vous l'ai indiqué, Pline le Jeune, était propréteur de Bithynie et du Pont. Alors la Bithynie et le Pont, c'est deux régions de l'Empire romain qui se trouvent dans la Turquie orientale actuelle. Donc en Turquie actuelle, mais pas côté... pas côté Istanbul, côté Orient. Et ça nous intéresse beaucoup parce que les 7 lettres qui sont dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 2 et 3 sont envoyées, nous le verrons tout à l'heure avec une carte, envoyées à des églises qui sont de cette région-là, ce qu'on appelle l'Asie mineure. Est-ce qu'à l'époque du Nouveau Testament et de l'Empire romain, dans l'Antiquité, on appelait l'Asie ? Ce qu'on appelait l'Asie, ce n'était pas l'extrême-orient asiatique. L'Asie, c'était du point de vue de Rome ou de la Grèce, c'était l'équivalent de la Turquie actuelle, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. On a donc affaire à Pline le Jeune, qui est un gouverneur de deux régions. Le Pont, la région du Pont, c'est la mer Noire. C'est la bordure de la mer Noire, le rivage sud de la mer Noire. Donc on a un gouverneur régional qui écrit à son empereur pour l'interroger sur ce qu'il convient de faire quand des gens lui sont dénoncés comme chrétiens. Alors déjà, l'idée d'être dénoncé comme chrétien pose question. On ne savait pas que c'était un crime, mais en tout cas, quand ils lui sont signalés comme chrétien, mais on comprend bien qu'il s'agit d'une dénonciation. Et vous allez voir que nous sommes dans une situation où on n'est pas encore dans les grandes persécutions systématiques de l'Empire qui sont à la fois étendues, très violentes, mais sporadiques. On est dans une sorte de... qu'est-ce qu'il faudrait dire ? C'est peut-être un tout petit peu la position que peuvent avoir des chrétiens en pays musulman un peu strict. C'est-à-dire qu'ils sont tolérés, mais limites, et si jamais on bouge, c'est embêtant. Alors voilà ce que répond Pline, et vous verrez qu'on n'a ni de la part de Pline, ni de la part de Trajan, une haine, mais en même temps, le souci de réglementer, de contrôler cette nouvelle affaire qui s'appelle le christianisme. Et c'est ça l'ambiance dans laquelle l'auteur de l'Apocalypse de Jean écrit. Alors nous lisons donc sur cette feuille jaune la question de Pline à Trajan. La feuille rose, merci beaucoup. Je me fais une religion, Seigneur, de vous exposer tous mes scrupules, car qui peut mieux ou me déterminer ou m'instruire ? Je n'ai jamais assisté à l'instruction et au jugement du procès d'aucun chrétien. Ainsi, je ne sais sur quoi tombe l'information que l'on fait contre eux, ni jusqu'où l'on doit porter leur punition. J'hésite beaucoup sur la différence des âges. Faut-il les assujettir tous à la peine sans distinguer les plus jeunes des plus âgés ? La peine, c'est la torture qui finit par la mort. Hein. Doit-on pardonner à celui qui se repent ? Ou est-il inutile de renoncer au christianisme quand une fois qu'on l'a embrassé, est-ce le nom seul que l'on punit en eux ou sont-ce les crimes attachés à ce nom ? Cependant, voici la règle que j'ai suivie dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde fois et une troisième fois, et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés. Car, de quelque nature que fût ce qu'ils confessaient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à punir en eux leur désobéissance et leur invincible opiniâtreté. Il y en a eu d'autres entêtés de la même folie que j'ai réservés pour envoyer à Rome, parce qu'ils sont citoyens romains. Dans la suite, ce crime venant à se répandre, comme il arrive ordinairement, il s'en est présenté de plusieurs espèces. On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où l'on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être ou de l'avoir jamais été. Elles ont, en ma présence et dans les termes que je leur prescrivais, invoqué les dieux, sous-entendu les dieux romains évidemment, et offert de l'encens et du vin à votre image. Il faut savoir que, spécialement en Asie mineure, le culte de l'empereur, qui progressivement s'est trouvé divinisé, était développé, à tel point que certains édiles d'Asie mineure, pour plaire à leur empereur, avaient initié une fête qui célébrait la naissance de l'empereur, donc le jour anniversaire de l'empereur, qui était appelé un évangile, un evangelia, parce que l'idée c'était la bonne nouvelle, un empereur nous est né. Vous voyez bien comment ça résonne par rapport à la période de l'Avent dans laquelle nous sommes. Et d'ailleurs, ça résonne à l'envers, parce que d'une certaine façon, le christianisme, en disant un enfant nous est né, un Seigneur nous est donné, parodie ces fameuses Evangelia, évangiles, qu'avaient initié ces gouverneurs de la province d'Asie pour se faire bien voir. Donc je continue la lettre et je dis à notre ami que nous lisons sur la lettre de Pline à Trajan qui se demande comment traiter les chrétiens qui lui sont amenés, et nous en sommes à la cinquième ligne du troisième paragraphe. Ces mêmes personnes, elles se sont même emportées en imprécations contre Christ, c'est à quoi, dit-on, on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens. Vous voyez, donc on leur fait subir une sorte de stage de déradicalisation. Il faut qu'ils arrivent à insulter le Christ. Donc s'ils arrivent à insulter le Christ, on se dit, bon, ces gens-là doivent vraiment pas être chrétiens. J'ai donc cru qu'il fallait les absoudre. D'autres, déférés par un dénonciateur, ont d'abord reconnu qu'ils étaient chrétiens et aussitôt après l'ont nié, déclarant que, véritablement, ils ne l'avaient été. Ils l'avaient été, mais qu'ils ont cessé de l'être, les uns depuis plus de 3 ans, les autres depuis un grand nombre d'années, quelques-uns depuis plus de 20. Tous ces gens-là ont adoré votre image et les statues des dieux, tous ont chargé le Christ de malédiction. Ils assuraient que toute leur erreur ou leur faute avait été renfermée dans ces points, qu'à un jour marqué, ils s'assemblaient avant le lever du soleil et chantait tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s'il eût été Dieu. Qu'il s'engageait par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol ni d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt, et qu'après cela, ils avaient coutume de se séparer et ensuite de se rassembler pour manger en commun des mets innocents, mais qu'ils avaient cessé de le faire depuis mon édit, par lequel, selon vos ordres, j'avais défendu toutes sortes d'assemblées. C'est tout à fait intéressant parce qu'on a là un témoignage de la part de quelqu'un qui est peu suspect d'être favorable au christianisme, on l'a vu, de ce que pouvait être le rite chrétien des origines. Vous voyez que ça se, ce qu'ils avouaient, c'était qu'ils se réunissaient à un jour marqué, donc on imagine que c'est le jour du Seigneur, le dimanche, qu'ils s'assemblaient avant le lever du soleil, parce qu'un certain nombre, étant esclaves ou serviteurs, devaient aller au boulot après, donc le culte avait lieu le dimanche matin avant le lever du soleil, qu'ils chantaient des louanges au Christ comme s'il eût été Dieu, qu'ils s'engageaient non pas à faire quelques crimes, c'est intéressant que Pline le note, il note qu'ils s'engagent à faire finalement des... à bien se comporter en société, et qu'ensuite ils partageaient, ils partageaient un repas. Donc c'est intéressant, on a un témoignage là de ce que pouvait être à la fin du 1er siècle, dans cette région d'Asie, le culte chrétien. Le rassemblement qui avait été interdit sur l'ordre de Pline, qui transmettait un ordre de Trajan. Cela m'a fait juger d'autant plus nécessaire d'arracher la vérité par la force des tourments à deux filles esclaves qu'ils disaient être dans le ministère de leur culte. Alors, autre information intéressante, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient engagées dans le ministère de cette communauté-là chrétienne. Et pas des femmes de bonne famille, des femmes esclaves. C'est-à-dire que là, on a vraiment la visée paulinienne que, sans distinction ni de sexe, ni de, d'appartenance ethnique, ni d'appartenance sociale, tout le monde peut participer à mener un culte dans le cadre du culte chrétien. Mais je n'y avais découvert, finalement, après avoir arraché par les tourments, ça veut dire par la torture, mais je n'y ai découvert qu'une mauvaise superstition portée à l'excès. Et il a du mal à trouver des choses pour les accuser. Et par cette raison, j'ai tout suspendu pour vous demander vos ordres. L'affaire m'a paru digne de vos réflexions par la multitude de ceux qui sont enveloppés dans ce péril. Car un très grand nombre de personnes de tous âges, de tous ordres et de tous sexes, intéressant, il reprend presque Galates 3:28, sont et seront tous les jours impliqués dans ces accusations. D'une certaine façon, Pline confirme la visée universaliste du christianisme des origines, et en même temps, il confirme que ça a l'air de se répandre, en tout cas dans la région où il est, comme une traînée de poudre. Donc ce qui l'inquiète, c'est la contagion. Et il se dit, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Ce mal contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Je crois pourtant que l'on y peut remédier et qu'il peut être arrêté. Ce qu'il y a de certain, c'est que les temples, qui étaient presque déserts, quand il parle des temples, il parle des temples païens qui avaient commencé à être désertés par le fait qu'un certain nombre de gens allaient plutôt au culte chrétien que dans les temples païens, étaient presque déserts, sont fréquentés sous-entendu de nouveau, et que les sacrifices aux dieux païens, longtemps négligés, recommencent. On vend partout des victimes qui ne trouvaient auparavant que peu d'acheteurs. On voit la dimension économique aussi. C'est-à-dire que les temples païens, mais comme d'ailleurs le temple de Jérusalem, fonctionnaient à cause du commerce des victimes sacrificielles qui s'y faisaient. Et là, on pense à l'intervention de Jésus au temple de Jérusalem qui chasse les vendeurs et les changeurs. On vend partout des victimes qui trouvaient auparavant peu d'acheteurs. De là, on peut juger quelle quantité de gens peuvent être ramenés de leur égarement si on leur fait grâce, si l'on fait grâce au repentir. Donc vous voyez qu'on a affaire là à un gouverneur romain en Asie qui n'est pas absolument antichrétien. Il est bien contre, il faut limiter cette maladie contagieuse. Mais en même temps, il se dit, on ne va pas tous les éradiquer. Enfin, il y a un gain à avoir une certaine pédagogie, un petit peu musclée, je le concède, pour amener le plus grand nombre à revenir de son égarement. Et voici ce que lui répond beaucoup plus brièvement l'empereur Trajan. « Vous avez, mon très cher Pline, suivi la voie que vous deviez dans l'instruction du procès des chrétiens qui vous ont été déférés. Car il n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale en cette sorte d'affaire. » Vous voyez que même Trajan n'est pas déchaîné. Il dit « C'est bien d'évaluer les situations. Il ne faut pas en faire perquisition. » Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre intentionnellement à la recherche des chrétiens. Mais s'ils sont accusés et convaincus, alors là, il faut les punir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se déclencher volontairement une inquisition, mais ceux qui sont mentionnés, on ne peut pas faire autrement que de donner suite à la dénonciation. Si pourtant l'accusé nie qu'il soit chrétien et qu'il le prouve par sa conduite, je veux dire en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir de quelques soupçons qu'il a été auparavant chargé. Donc il y a une certaine mansuétude si le chrétien accepte de renoncer. Au reste, dans nul genre de crime, l'on ne doit recevoir de dénonciation qui ne soit souscrite de personne. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir de dénonciation non assumée, non signée. Car cela est d'un pernicieux exemple et très éloigné de nos maximes. Donc vous voyez, on est dans une situation, qu'est-ce qu'il faut dire? On ne peut pas la qualifier de persécution, mais on ne peut pas non plus la qualifier de tolérance. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cet entre-deux où il est possible, si on se repent au bon moment, d'échapper à la dénonciation et à la peine.
Oui?
Alors cette lettre, elle est, j'ai pas exactement la référence, vous pourrez la retrouver sur internet très facilement, malheureusement elle est très datée, c'est dans le livre 10 des lettres, dans les lettres 97 à 98 sur les chrétiens, donc je pense que il y a une série de livres qui compile la correspondance de l'empereur Trajan ou de Pline le Jeune. J'ai plus en tête la référence, mais vous, avec ça, si vous faites lettre de Pline à Trajan, livre 10, vous trouverez tout à fait l'éduction et vous aurez d'autres correspondances. Elles sont tout à fait intéressantes, c'est passionnant. Alors c'est dans cette ambiance-là que l'auteur de l'Apocalypse de Jean écrit dans son livre, l'Apocalypse de Jean, cette lettre aux églises. Alors vous avez à chaque fois une double page qui en contient une, mais elle est dedans, donc vous prenez juste la double page et vous faites circuler. Vous avez des questions ou bien ?
C'est quand même plus près de la persécution que de la tolérance.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est plus près, mais en même temps, c'est pas une persécution qui est déchaînée systématique. C'est pas une inquisition et en même temps il n'y a pas vraiment d'analyse de la menace, c'est-à-dire que quand l'enquête est faite, on dit ben voilà ce qu'ils font, ils se réunissent, ils chantent ensemble. Alors peut-être la seule chose qui peut donner une clé d'interprétation, c'est que on est vraiment dans la logique de... Est-ce que tout le monde en a? Ou bien il y en manque encore? Alors, il y en a trois qui circulent. Vous envoyez le paquet là-bas. Voilà. On est dans la logique un petit peu de l'Empire romain et de la religion romaine, c'est que grosso modo, on peut croire ce qu'on veut à condition de respecter le pouvoir divin de l'empereur. C'est un petit peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez croire ce que vous voulez, être un croyant, être ce que vous voulez, à condition que vous acceptiez la religion de l'Amérique. Alors, c'est quoi la religion de l'Amérique ? Là, il suffit de regarder un dollar, in God we trust, on ne sait plus qui est Dieu, vous voyez ? Mais si vous adhérez à cette idéologie dominante, il n'y a aucun problème, vous pouvez avoir les idées les plus farfelues, on n'ira pas vous embêter. Mais, en plus de votre idée farfelue, ou de votre embêtante superstition, comme dit Trajan, vous devez adorer principalement, enfin, reconnaître principalement la pensée unique de l'Empire. Hein ? C'est la seule condition. C'est pernicieux, hein ?
C'est irréconciliable, surtout, je veux dire, dans la mesure où les chrétiens pensent qu'il y a un seul Dieu, donc ça exclut les autres.
Évidemment.
Dans la mesure où l'empereur, étant le garant de la République, il ne peut pas tolérer que...
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que, et les Juifs, mais eux, ils bénéficiaient d'un statut à part de religion licite. Et les chrétiens sont considérés par l'Empire romain comme des athées ennemis du genre humain, puisqu'ils n'adorent pas les dieux. Au nom de leur dieu unique, ils contestent les autres dieux. Et contestant les autres dieux, ils contestent l'idéologie dominante de l'Empire. Et contestant l'idéologie dominante de l'Empire, dont tout le monde sait bien que c'est le bien universel depuis Auguste, eh bien, ils sont ennemis du bien universel et donc du genre humain. C'est-à-dire que les Juifs et les chrétiens étaient dénoncés comme athées, hein, et comme gens areligieux, précisément. Ceci dit, je crois que l'Empire romain avait raison. Malheureusement, le christianisme est redevenu une religion, mais ça, c'est une autre question dont on pourra discuter une autre fois si vous le voulez. Mais on reste dans le domaine de l'Apocalypse. Alors, nous avons là, sous les yeux, alors, sur la feuille que je vous ai donnée, vous avez en page 1 une sorte de petit plan, mais avec beaucoup de guillemets, de l'Apocalypse, puisque vous vous souvenez que j'avais dit que la seule chose sur laquelle tombent d'accord les exégètes, c'est qu'il y a un prologue et un épilogue, et puis qu'entre les deux, vous avez toute une succession de groupes de cette vision, et puis il y a une carte que nous verrons après. Donc les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse sont constitués de 7 lettres, et je vous suggère que nous les lisions les unes après les autres, et j'aimerais avoir un lecteur par lettre, si vous voulez. Alors vous voyez que je vous les ai mis à la fois en gros caractères, avec pitié pour ceux qui, comme moi, ont des mauvais yeux. Et puis vous l'avez aussi d'une autre façon, et dans une traduction un petit peu différente, avec des couleurs, ce qui nous aidera aussi à voir la structure des lettres. Qui veut bien lire la première des lettres à l'église d'Éphèse ? Oui, merci.
À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit : ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et accomplis les œuvres d'autrefois. Sinon, je viens à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais fais ceci en ta faveur. Comme moi-même, tu as en horreur les œuvres des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
Merci. Alors, monsieur est en train de lire dans la version en gros caractère, qui est de la Tobe. L'autre est de la Nouvelle Bible Second. Donc, celui qui va lire dit juste dans quelle traduction il lit. Qui veut bien lire la deuxième lettre à l'église de Smyrne? Madame, hop là, hop là. Vous êtes fait ravir la... vous prendrez la troisième... Allez-y, madame. Et vous prendrez la troisième, madame. Allez-y.
À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit. Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort mais qui est revenu à la vie. Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se prétendent juifs, ils ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. Voici, le diable a jeté des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort.
Merci beaucoup. Madame, l'église de Pergame.
À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. Je sais où tu demeures. C'est là qu'est le trône de Satan. Mais tu restes attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelques reproches à te faire. Il en est chez toi qui s'attache à la doctrine de ce Balaam qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël pour les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Chez toi aussi, il en est qui s'attache de même à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viens à toi bientôt et je les combattrai avec le glaive de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche, et, gravé sur la pierre, un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.
Merci. La quatrième lettre à l'église de Thyatire, madame.
Alors, je lis sur le...
Sur le, grand, le petit, voilà.
À l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai, à chacun de vous, selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, restez-y attaché jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Merci. La cinquième lettre à l'église de Sardes, monsieur.
À l'église de Sardes. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit. Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je sais tes œuvres. Tu as renom de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, à Sardes, tu as quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera-t-il des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises.
Merci beaucoup. Encore une, l'avant-dernière, la lettre à l'église de Philadelphie. Madame, merci.
À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit « Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres, voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Merci. Et une dernière, septième et dernière lettre à l'église de Laodicée. Qui veut bien ?
Moi, je vais essayer.
Merci, madame.
C'est celle que je préfère.
Alors, allez-y.
À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable de principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir et que tu ne paraisses pas la honte de ta nudité, et un collier pour moindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit au Père.
Merci beaucoup. Et à partir du chapitre 4, verset 1, reprennent les visions. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la vision du verset 1, du chapitre 1 est interrompue par ces deux chapitres 2 et 3, qui sont des lettres. Et la vision continue à partir du chapitre 4. On a comme une sorte de parenthèse. Certains exégètes disent que c'est sans doute des lettres qui ont été rajoutées après, mais peu importe, ils sont actuellement dans l'ensemble de l'Apocalypse. Et c'est-à-dire l'Apocalypse est adressée.
Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a que les églises moyennes orientales qui ont été visées par ces lettres et pas les
Oui, alors si vous refermez la grande page et qu'on va du côté de la carte, vous voyez la carte de la Grèce et de l'Asie mineure, vous voyez qu'on commence par quelle église ? La première des lettres, c'est l'église. Éphèse. Est-ce que vous avez trouvé Éphèse ? Ouais, Éphèse. La deuxième, c'est Smyrne. Vous voyez, c'est un petit peu au nord-ouest d'Éphèse. Quelques dizaines de kilomètres, hein, ou 100 kilomètres.
C'est Izmir.
Izmir, exactement. La troisième lettre, elle est à Pergame. Donc là, de nouveau un peu au nord. La quatrième lettre, Thyatire, qui est à l'est de Pergame. Et puis Sardes, Philadelphie, Laodicée. Vous voyez qu'on fait un petit, comme il y a le Tour de France, il y a une sorte de tour d'Asie mineure. Hein? Et puis si vous vous rappelez, le fameux Jean écrit cette lettre, qui écrit ce livre de l'Apocalypse, est exilé à Patmos, vous voyez, un tout petit peu au large de Millet. J'avais déjà mentionné la dernière fois, si vous remontez les îles grecques, au-dessus de Patmos, il y a Samos, après il y a Chios, et puis après il y a Lesbos, dont on entend parler malheureusement trop souvent, puisque c'est un des passages des réfugiés, en particulier syriens, qui arrivent à Lesbos, territoire grec. Voyez que ce Jean de Patmos, il est exilé à Patmos à cause du témoignage qu'il a rendu au Seigneur, ça on l'a appris au chapitre 1, soit qu'il soit exilé volontairement, en se disant la situation est trop dangereuse sur le continent, soit qu'il ait été banni par l'autorité, ça nous ne le savons pas, mais il n'a pas oublié les églises dont il vient, et peut-être en était-il un des responsables, et alors que lui est exilé à Patmos, il écrit aux églises dont il avait la responsabilité pour les soutenir dans leur combat et dans leur résistance. C'est ici Londres. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on a un résistant spécialement exposé qui, de son lieu de refuge, mobilise la résistance restée face à l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans le même type de... Vous voyez l'analogie, hein ? Alors pourquoi ? On n'en sait rien, mais vraisemblablement, ce Jean de Patmos devait être un responsable d'église de cette région-là. Et on voit bien qu'il a le souci, enfin qu'il connaît le circuit. Hein. elles ne sont pas dans n'importe quel ordre. Il y a un tour d'Asie mineure qui est là. Alors ça, c'est une indication aussi intéressante parce que vous avez signalé que l'Apocalypse de Jean se présente à la fois comme un combat cosmique où tout l'univers est concerné, et en même temps, où est-ce que ce combat cosmique prend forme concrètement ? Pour chacun, c'est là où il vit. Et pour Jean de Patmos, c'est les communautés dont il avait la responsabilité. Peut-être il se passait des choses ailleurs en Asie, ou ailleurs à Rome, ou ailleurs en Espagne, ou en Afrique du Nord, mais ce domaine-là, il ne le connaît pas. Donc, mais en même temps, il a conscience que ce combat-là a une dimension cosmique à l'échelle de tout le monde habité, au moins de l'Empire. Alors, si vous voulez, nous revenons à ces lettres. Vous avez, j'espère, noté comment elles ont une structure. Est-ce qu'on pourrait repérer des éléments qui se retrouvent systématiquement ? Alors, vous pouvez soit utiliser le grand format, soit utiliser le plus petit format, où j'ai déjà avancé le travail. Ben oui, il faudrait plus de temps. Hein. Vous pouvez passer un week-end sur ces... Oui ?
Ouais. Mais revenez aux bonnes mœurs et persévérez et je vous sauverai.
Voilà.
Et commence toujours par dire ce qu'il y a de bien chez le responsable de l'Église et ensuite, mais il y a des problèmes.
Oui, voilà, oui. Alors on verra que il y a à peu près du bien et du mal dans chaque église, mais il y a l'une ou l'autre où il n'y a que du mal, ou l'une ou l'autre où il n'y a que du bien. Mais c'est vrai qu'en général, il y a du bien et du mal, et il y a l'idée de dire, vous étiez parti fort, et puis ça s'est détérioré. Il y a eu un affadissement.
Le plus condamné, c'est celui qui est bien du mal.
Exactement, oui, alors ça c'est complètement mal. J'aurais préféré que tu choisisses le mal, mais tu es dans un entre-deux qui essaie de ménager la chèvre et le chou.
Ça marche pas.
Ouais, ça marche pas. Vous voyez bien, il faut lire ça avec en tête la correspondance entre Trajan et Pline. C'est-à-dire que ménager la chèvre et le chou, ça doit vouloir dire essayer de continuer à être chrétien sans le reconnaître et sans l'affirmer. Ce qui permet de bénéficier à la fois de l'appartenance au christianisme et de se garantir la sécurité vis-à-vis de l'Empire.
C'est-à-dire... Ce qui va donner l'hérésie donatienne, ça.
Oui, dites-nous.
Donatius.
Oui, oui. Allez-y, expliquez-nous.
Après la persécution de Domitien, interdire le retour dans l'église des lapsides de ceux qui ont failli, ou qui ont vendu, ou qui ont donné pour se libérer des biens d'église.
Oui, voilà. Donc, plus tard, quand il y a des persécutions qui vont devenir plus systématiques, va y avoir cette idée qu'il n'y a pas de repentir possible. Ce n'est pas du tout le sentiment du Jean de Patmos. Jean de Patmos dit, il y a des possibilités de revenir, mais ne tardez pas, quoi. C'est le moment de revenir de votre égarement, hein, de cette tendance à essayer de ménager la chèvre et le chou, d'être à la fois en accord avec le système dominant et en même temps chrétien. Il est dans une situation où il a l'air de dire « Les amis, c'est pas possible de manger à tous les râteliers. »
On en parle comme ça, mais il s'agit de sortir et puis de mort.
Hein, oui, vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, même dans des situations où se mettre en conflit avec le système dominant n'entraîne pas la mort, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont tièdes quand même. Enfin, toute ressemblance avec une situation existant ou ayant existé serait parfaitement fortuite. C'est-à-dire que c'est intéressant que même dans des situations où on risque pas la mort, quand il y a en jeu mon confort, ou ben, ça peut exister dans l'entreprise. Hein, après, les systèmes dominants peuvent varier, hein, mais là, le système dominant de l'Empire, c'est vrai qu'il a ça, qu'il revendique la divinité pour lui, d'être la référence absolue. Donc,
Parce que nous, on se dit, ils font rien de mal, qu'est-ce qu'ils ne tuent pas, ils ne veulent pas.
Ouais.
Mais apparemment, le système de valeur est autre, donc si on change, si on remet en cause un domino, on remet en cause tout risque de s'effondrer.
Ouais, exactement.
Donc, pour nous, ce serait tuer quelqu'un, non, pour eux, c'est dire non à l'empereur, soit un petit truc, ça remet tout en cause.
Ouais. Donc, vous pourriez toujours.
De mon point de vue, je me dis,
essayez de dire.
Prêt à mourir,
essayez de dire non à la loi du marché. Puis vous verrez les problèmes que ça peut poser. Il y a des systèmes dominants suivant différentes époques. Mais vous avez tout à fait raison, c'est que d'une certaine façon, l'Empire romain, même s'il n'avait pas tout compris, avait compris que le fait même qu'un petit groupe, mais insignifiant en termes de... Lénine aurait dit le Vatican, combien de divisions ? Là, il n'y a même pas une division de chrétiens. Donc, le petit groupe de chrétiens n'est en aucun cas, à cette époque-là, un quelconque danger par rapport à la stabilité de l'Empire du point de vue stratégique, politique, etc. Seulement, le fait même de se mettre en dissidence par rapport à la pensée dominante de l'Empire, confusément, l'Empire sent que c'est très dangereux. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe avec Jésus et Barabbas. Hein ? Qui voulez-vous que je vous relâche ? Jésus, qui a tué personne, qui a juste causé, qui est un bien gentil, puis qui a guéri des gens, ou Barabbas, un terroriste résistant palestinien, plus ou moins brigand, mafieux ? Il n'y a aucun problème, le plus dangereux n'est pas celui qu'on croit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est dans la même logique. D'une certaine façon, l'Empire est bien avisé de persécuter les chrétiens. Il a compris que c'était plus dangereux que d'autres mouvements. Et de fait, alors après, il y a toute une histoire. Quand le christianisme l'emportera, l'Empire deviendra chrétien, et ce sera le commencement de la fin, mais ça, c'est autre chose. Et d'une certaine façon, on pourrait se dire, mais ce Jean de Patmos, qui est bien à l'abri à Patmos, ça lui va bien de dire aux gens « tenez bon ». Mais en même temps, il a lui aussi le sentiment que ce joug-là, dans l'adhésion à la pensée dominante de l'Empire ou de sa contestation, c'est là que se joue la vérité du christianisme. Et il s'agit bien d'un combat, puisque vous avez vu qu'à la fin, au vainqueur, je donnerai. Ça revient à chaque fois. On va de nouveau voir les... voyez comment ça commence. À l'ange, ça se commence à chaque fois. À l'ange de l'Église qui est à Éphèse. On s'était demandé la dernière fois, c'est qui l'ange des Églises ? Or, on a l'impression que c'est, on dirait, au président du conseil presbytéral de l'Église d'Éphèse écrit ça, enfin, ou au leader, ou au pasteur, ou je sais pas, enfin, en tout cas, à une des personnalités importantes de l'Église d'Éphèse écrit, etc. Donc, à chaque fois, il y a une adresse personnalisée. Et vous voyez que... qui écrit « Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles, qui est le premier et le dernier, qui a le glaive acéré à double tranchant, c'est la troisième lettre, celui qui est le Fils de Dieu et dont les yeux sont qu'une flamme ardente, celui qui a les sept esprits, le Saint véritable, l'amène le témoin fidèle, qui c'est ? Qui est l'auteur ? Qui est l'auteur de la lettre ? Parce que Jean de Patmos, il est juste le scribe. Alors, qui c'est ? Le Saint-Esprit, dit madame. Regardez, regardez à Thyatire. Celui qui est le Fils de Dieu, oui. C'est que les attributs du Christ. Alors, c'est tout à fait intéressant. On aurait pris le temps, de lire dans le détail là, la première vision du chapitre 1, on serait rendu compte que tous ces attributs sont là dans la première vision du chapitre 1 et qu'ils sont dispatchés, répartis sur les sept lettres. Vous voyez que, par exemple, celui qui, je prends Éphèse dans l'ordre, celui qui a les sept étoiles dans sa droite qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, vous irez voir. C'est chapitre 1, versets 12, 16 et 20. Si vous allez regarder à l'église de Smyrne, le premier et le dernier, celui qui fut mort et est revenu à la vie, bon, ça désigne directement le Christ, vous le trouvez dans chapitre 1, versets 17, 18. Celui qui tient le glaive acéré à deux tranchants, le Pergame, c'est chapitre 1, verset 16b. Et puis Thyatire, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois... la grande vision, la première vision, finalement, du chapitre 1 était une vision de celui qui est le vrai révélateur, le Christ. Vous vous souvenez que c'est l'Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc c'est la révélation de, à la fois, il est l'objet de la révélation et c'est lui qui révèle. Et la première vision du chapitre 1, c'est tous les attributs qui sont allongés. Et là, maintenant, ils sont repris un par un et mis comme. Expéditeur de chacune des lettres. Vous irez voir. Donc là, les attributs qui sont au début de chacune des lettres renvoient chacune d'une façon différente au Christ qui est... En fait, l'idée, c'est le Christ vous adresse à vous, les sept églises, chacun une lettre personnelle.
On a l'impression que ce Christ l'est en... De temps en temps, vraiment bien juif quand même, et de temps en temps qu'il est bien notre Christ, tel qu'on se le raconte nous. Quand, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai eu l'impression, par exemple, les sept étoiles, ça me fait penser au judaïsme.
Ouais.
Alors, je ne sais pas que le chiffre 7 revient, etc. L'histoire là, de la. Celui qui a la clé de David, etc. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage très fort quand même dans.
Tout à fait. Tout à fait, absolument. C'est-à-dire que le christianisme des premiers siècles, ou en tout cas du premier siècle, est complètement enraciné dans le judaïsme, et il se perçoit d'ailleurs comme le vrai judaïsme. C'est d'ailleurs pour ça qu'à plusieurs reprises dans les lettres, on y viendra, il y a des accusations contre ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Autrement dit, c'est nous les vrais juifs qui avons accueilli le Christ comme Messie. Donc il n'y a pas du tout de rupture. Il y a un sentiment... c'est pour ça que dans le documentaire de Mordilla et Prieur, ce qu'on fait, vous savez, sur Arte, plusieurs séries, celui sur l'Apocalypse, il doit avoir un compte à régler personnel. Ils en ont un à régler par rapport à leur Église catholique romaine. On peut comprendre des fois, mais ils ont aussi un compte à régler avec l'antisémitisme. Et ils prennent l'Apocalypse comme un texte antisémite parce qu'il y a les faux juifs, etc. Mais c'est un texte qui se revendique dans la continuité du judaïsme. Mais évidemment, du point de vue qui est devenu le point de vue chrétien des premiers siècles. Il faut aussi dire que l'Église qui se réclamait de Jean ou du quatrième évangile, donc la communauté johannique. Hein, vous savez que les communautés du christianisme des origines du 1er siècle ne sont pas unifiées. Quand on est pharisien et qu'on devient chrétien, on ne produit pas le même judaïsme que quand on est sadducéen et qu'on devient chrétien, ou zélote et qu'on devient chrétien. Et les églises johanniques font partie des églises qui sont restées le plus longtemps dans le giron de la synagogue, jusque dans les années 80-85. Donc très très longtemps, le christianisme johannique est au cœur de la synagogue et d'une certaine façon protégé par son appartenance à la synagogue. Et puis il y a un moment, ces chrétiens johanniques, au moment où le judaïsme rabbinique se durcit, sont mis à la porte. On pourrait se dire, être mis à la porte d'une église, c'est pas grave, ça arrive à d'autres et on peut aller dans une autre. Le problème, c'est que d'être mis à la porte de la synagogue, ça veut dire perdre la protection vis-à-vis de l'Empire romain. Ça veut dire être jeté dans les griffes du loup ou dans la gueule du lion par ses frères. Et évidemment, ils vont dire, les juifs nous ont mis dehors. Mais ils en sont, des juifs. Et ce que je veux dire ? Donc c'est une affaire entre juifs, d'une certaine façon. Mais du coup, il y a une certaine hargne, là, parce que ces chrétiens des églises et du courant johannique se sont retrouvés exposés d'un seul coup à l'Empire romain et pour certains en conflit avec, parce qu'il a été simplement mis à la porte. Alors ça, on peut comprendre des...
Et qu'est-ce qui déclenche le retour à un judaïsme comme plus rabbinique, plus attendu?
C'est-à-dire que le judaïsme après la catastrophe de la destruction du temple, la première guerre juive, et puis il y a la seconde qui va arriver en 135, finalement c'est le repli presque bunkérisé autour de la Torah qui va assurer la survie du judaïsme. Et les chrétiens ne sont pas les seuls à avoir été mis dehors. Hein. Il y a les baptistes, les sadducéens, ils étaient au chômage puisque le temple avait disparu. Mais les zélotes sont écrasés, les esséniens disparaissent. Donc tous les groupes de ce judaïsme multiforme du 1er siècle disparaissent. Et c'est le judaïsme rabbinique qui devient hégémonique. Qui va créer toute la tradition juive ultérieure.
Et là, dans les textes, il parle de Nicolaï.
Alors on va y venir. Si vous voulez, on va essayer de faire un peu comme un archéologue de descendre couche par couche. Hein. Là, on a vu la présentation pour les sept lettres, c'est à chaque fois le même expéditeur. C'est le Christ victorieux, mais qui est représenté avec des éléments de la vision du chapitre 1. Qu'est-ce qui vient après ? Vous avez dit...
Attendez, excusez-moi.
Oui. Allez-y.
Le tout début, à l'ange de l'Église qui a été à Éphèse, à l'ange de l'Église qui a été à Smyrne, ça ne me paraît pas super personnalisé, c'est un petit peu comme je dis, au directeur de la bibliothèque de machin...
Ouais, on pourrait dire, ouais.
Donc on sait qui c'est, mais s'il n'est pas là, c'est le responsable dans son absence, donc je ne pense pas que ce soit... La personne, c'est plus... le responsable, les responsables.
Vous avez tout à fait raison.
S'il est malade, c'est la personne qui l'a.
Exactement. On n'est pas dans du courrier, dans du courrier privé. On est dans de la lettre, de la lettre ouverte. Donc, c'est lui qui est chargé, mais si c'est quelqu'un d'autre qui la lit, en fait, c'est une façon de dire à l'église d'Éphèse, à l'église de l'Oratoire du Louvre, à l'église de Pergame.
Ensuite, quand il dit « je connais tes œuvres »,
ouais.
C'est pas, on comprend que ce n'est pas les œuvres du responsable.
Exactement, vous avez raison.
C'est les œuvres de l'église.
Exactement, c'est l'église considérée comme une personnalité collective, on pourrait dire. Ouais. Ouais, exactement, tout à fait. Il s'adresse à chacune de ses paroisses comme à une personnalité collective. Ouais. Et il sait les œuvres. Alors vous voyez que la plupart ont commencé par des bonnes œuvres. Hein? Il n'y en a qu'une, c'est la dernière, pour laquelle il n'y a pas de, bonnes œuvres. Mais toutes les autres ont des bonnes œuvres. Alors regardons l'une après l'autre, parce que vous verrez qu'il a personnalisé vraiment ses lettres. Éphèse, c'est quoi ce que Éphèse a de bien ?
Son travail, sa persévérance.
Ouais.
Il a dû mettre au pas des contradicteurs
ouais.
De l'époque.
Ouais.
Ceux qui se disent apôtres ne le sont pas.
Ouais, voilà.
Vous pouvez qu'ils aient été des faux apôtres.
Voilà. Éphèse a su trier le bon grain de livret parmi tous les apôtres qui circulaient. Vous vous souvenez, si vous lisez le début de la lettre aux Corinthiens, on apprend qu'il y a des tas d'apôtres qui circulent, qui se revendiquent chacun de plus d'autorité. Et là, Apollos, je ne sais pas, Apollos s'en est un, Éphèse a l'air d'avoir été capable, du point de vue du genre de Patmos, de faire le tri. Oui, tout à fait. Ouais.
Seulement, ils se sont arrêtés.
Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta ferveur première. Et en quoi ça consiste d'avoir oublié sa ferveur première ?
Avoir laissé corrompre le message.
Oui, mais par quoi ?
Par les idoles environnantes.
Par les idoles environnantes. Oui, mais ça là, vous voyez, on en rajoute parce que c'est pas dans la lettre. Elle a l'air d'avoir un rapport un peu particulier avec l'œuvre des Nicolaïtes. Elle a en horreur les œuvres des Nicolaïtes. Mais en même temps, donc elle a été capable d'écarter les œuvres des Nicolaïtes, mais pas de façon suffisante. Ou alors il y a des hésitations. Alors ces Nicolaïtes, on n'en connaît pas grand chose, mais visiblement ils réapparaissent dans la lettre à Pergame, la troisième lettre, au verset 15. Et puis. Et puis c'est tout. La doctrine des Nicolaïtes. Alors, ce qu'on sait des Nicolaïtes par des textes des pères de l'Église, c'était que c'était des chrétiens convaincus, mais qui trouvaient un peu bête d'être persécutés pour une simple confession de foi. Et que finalement, dans l'Empire romain, on pouvait relativement facilement pratiquer son christianisme, toutefois qu'on ne montrait pas de blanche quand on nous le demandait. Donc c'était des gens qui avaient trouvé un accommodement qui permettait de ne pas être inquiété. Et comme l'Empire romain à l'époque ne mène pas d'investigation ou d'inquisition, il n'y avait pas de problème. Les Nicolaïtes, on pense que, enfin certains disent, ils sont assez peu connus, c'était une forme particulière de gnose. C'est que la gnose, c'est une l'idée d'une religion par le salut, par la connaissance, très influencée par le platonisme ou le néoplatonisme à l'époque, et qui considère que le corps ne vaut pas grand-chose, que l'important L'important, c'est l'âme. L'important, c'est l'âme et le salut de l'âme par la connaissance, par l'initiation à un certain nombre de mystères. Alors, ça engendre deux types d'attitudes complètement, radicalement opposées. C'est soit, puisque le corps n'a pas d'importance, on peut en faire ce qu'on veut et se livrer à toute licence, puisque le corps, c'est rien, l'important, c'est l'âme pure. Ou bien alors, puisque le corps, c'est rien, il faut le soumettre et le mortifier, et surtout qu'il ne prenne pas le pas. C'est deux attitudes radicalement opposées, mais qui viennent toutes les deux d'une valorisation de l'âme contre le corps. Alors, si Nicolaïte dirait « Par votre corps, vous pouvez simuler l'appartenance, enfin, l'adhésion à la pensée dominante de l'Empire, toutefois que votre âme reste préservée du côté du Christ. Ça vous évitera bien des tracas. et il semble que si le Jean de Patmos a répété à plusieurs reprises qu'il y a un problème avec les Nicolaïtes, c'est que sans doute que cette doctrine, cette façon d'être, avait rencontré un certain succès dans les églises d'Asie mineure. C'est-à-dire, bah oui, après tout. Oui, alors vous avez tout à fait raison de mentionner ça, c'est que finalement, sous différentes formes, c'est toujours des accommodements qui sont dénoncés.
On peut dire que c'est quelque chose qui s'est prolongé dans les siècles.
Oui. Parce
que, au moment des persécutions des Juifs en Espagne,
oui.
Ah oui. Les converts.
Oui. Il y avait une dénonciation de ceux qui. Se disait, oui, des faux convertis.
Oui, oui, oui.
C'est un peu le même des Nicolaïtes.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que dans toutes les périodes de persécution, j'imagine qu'à l'époque de la Réforme des persécutions religieuses, ça a dû aussi exister. Mais ça existe même et ça existait même avant. Vous vous souvenez, si vous avez lu dans le livre des Maccabées, lors de la crise maccabéenne au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand l'empereur grec Séleucide Antiochus Épiphane veut interdire le judaïsme. On contraint des gens à consommer du porc. Et puis vous avez dans le premier livre des Maccabées, ou le deuxième, chapitre 6, un vieux juif, notable de la ville, qu'on veut contraindre à manger du porc, sous peine de torture. Hein, le chapitre d'après, c'est les sept frères là, qui sont coupés en morceaux et brûlés et tout ça. Et comme c'est un gars sympa, les autorités païennes de la ville disent « Écoute, on va te préparer un ragoût de mouton, on dira que c'est du porc, tu en mangeras et tu as vécu jusqu'à 70 ou 80 ans, tu ne vas pas mourir dans les pires souffrances comme ça. » Et que dit le vieux Éléazar ? Il dit « Non, j'en mangerai pas parce que si j'en mange, alors les jeunes... » croiront que le vieil Éléazar s'en fiche de manger du porc ou de manger du porc, et donc le vieil Éléazar s'en fiche de la tradition juive, et ça va les déstabiliser, et ils n'oseront plus résister en continuant à pratiquer leur religion. Donc finalement, la question des Nicolaïtes, c'est voilà une technique pour sauver votre peau, individuellement. Et sauver votre âme qui, de toute façon, ne sera pas atteinte. Ce que dit Jean de Patmos, c'est que si vous faites ça, alors vous donnez le mauvais exemple. Parce que ceux qui vous voient vous soumettre à l'idéologie dominante de l'Empire ne peuvent pas savoir ce que vous pensez. Hein. Alors c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que la dernière présentation du Christ, dans la septième lettre, celle à Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire le témoin, c'est-à-dire le martyr fidèle et véritable. Pourquoi est-ce qu'il est fidèle et véritable, Christ ? C'est parce qu'il a été jusqu'au bout du témoignage et a accepté la mort, contrairement à ceux qui vous disent que vous pourriez vous débrouiller pour y couper, pour vous compromettre. Et c'est pour ça que c'est absolument terrible contre eux. Et eux, ils sont tièdes et il n'y a rien qui les lève, sauf à la fin, voici quand même, je me tiens à la porte, tu peux trouver une voie pour revenir. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que même s'il y a, vous voyez, beaucoup d'homogénéité, il y a aussi un certain nombre de variantes. Sur les souffrances, la première, Éphèse, verset 3, « Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'as pas perdu courage. Enfin, au moins, dans un premier temps, tu as osé affronter l'épreuve. » Si on regarde à peu près au même niveau pour la deuxième lettre, à l'église de Smyrne, au verset 10, « Voici, le diable va jeter certains des vôtres en prison et vous tentez, vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort. » C'est-à-dire que je t'annonce que ça va être chaud. On pourrait dire comme ça. L'église de Pergame, la fin du verset 13, « Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous. » C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un certain... Dans l'église de Pergame, dans la communauté de Pergame, il y a un certain Antipas qui y est passé, qui a été martyrisé jusqu'au bout. Hein? On n'a pas de telle chose dans l'église de Thyatire. Par contre, la cinquième, l'église de Sardes, si vous allez regarder au verset 4, il y a cependant à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Autrement dit, qui n'ont pas accepté de se compromettre. Hein? Et puis pareil, Philadelphie, à la fin du verset 8, tu n'as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Donc, il est en train de différencier un petit peu son analyse du comportement et de chacune des communautés, et à l'intérieur de chacune des communautés, il y en a contenu bon, et puis il y en a qui se sont laissés séduire. C'est un petit peu une lettre ouverte qui finalement appelle chacune des communautés à faire son examen de conscience. Parce que lui, il est au loin. Lui, il est à Patmos et il envoie son analyse. Qu'est-ce qu'on a encore vu d'autre dans ces lettres ?
Il y a cette espèce de refrain que celui qui a les oreilles entendent.
Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ça, c'est la formule classique des prophètes de la Bible hébraïque. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Hein? Puis Jésus va le reprendre. Donc c'est typiquement, on est dans une affirmation prophétique. Alors vous savez que le mot en grec « entendre »,« akouo », c'est particulièrement intéressant de le travailler ça dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc, où il revient sans arrêt. C'est un verbe intéressant parce qu'il veut dire à la fois « entendre », « écouter », comprendre et obéir, avec sa variation upakuo. Ah oui, pour nous c'est différent. Hein? Alors, entendre, on entend de loin, on écoute, on tend l'oreille, on prête l'attention, on comprend, ça veut dire qu'on intègre, et on obéit, ça veut dire qu'on met en œuvre. Tout est dans ce verbe-là. Donc on pourrait aussi dire... celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il obéisse ou, à ce que dit l'Esprit aux églises, ou celui qui a des oreilles pour comprendre. Vous voyez, enfin, on pourrait faire jouer toutes les...
Comment dire aussi entendre, c'est comprendre.
Entendre, c'est comprendre, évidemment, mais Mais pour nous, entendre, ça peut être avec une oreille distraite. Mais ceci dit, tu m'entends ou l'entendement, ou quand un parent dit à son enfant, est-ce que tu vas enfin m'écouter? Est-ce que tu vas enfin m'obéir? Donc on a ces mêmes variations en français, on peut utiliser le mot écouter, il m'écoute pas. J'ai un enfant, il m'écoute pas. Ça veut dire il m'obéit pas. Hein? Donc on a la même variation. Donc il y a bien à chaque fois ce refrain qui est un appel à une écoute attentive qui comprend et qui met en œuvre.
Hein? C'est intéressant ce que vous dites par rapport au sens des mots, je veux dire, qui ont acquis un sens différent et dont on a perdu des sens. Moi, je pense à se prostituer qu'on trouve au 14.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles, donc à pratiquer le culte commun à tout le monde, et à se prostituer. Et au 21, je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais ne pas se repentir de sa prostitution.
Oui, tout à fait. Alors là,
ça me choque que ça, le premier truc auquel je pensais, voilà quelqu'un qui lui frappe sur quelqu'un qui vit peut-être à une vie pas morale, mais c'est machin. Et c'est pas du tout.
C'est pas du tout de la morale. Alors ça on l'a évoqué. Alors tout à fait, on l'a évoqué la dernière fois. C'est que la prostitution dans le langage prophétique ou dans le langage apocalyptique, il n'y a aucune connotation ni sexuelle ni morale. Alors vous dire alors de quoi il s'agit? Mais c'est un peu comme l'adultère. C'est-à-dire que là, la prostitution, ça veut dire... On avait évoqué la différence entre l'adultère et la prostitution, c'est que dans la prostitution, il n'y a pas d'amour, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'on consent à une action contre rémunération. C'est ça qui caractérise... Dans l'adultère, on pourrait dire qu'il y a de l'amour, on peut dire qu'il y a de la tromperie, il y a la rupture de confiance, etc. Mais il n'y a pas d'échange commercial. Dans la prostitution, il y a un échange commercial. En fait, l'auteur, là, va qualifier de prostitution cette
acte. Se vendre, en fait.
Se vendre, c'est-à-dire que si je suis chrétien et que j'accepte contre mon gré et contre ma conscience de me présenter comme adhérent à l'idéologie officielle de l'Empire pour en récupérer en gain le bénéfice de la sécurité, alors je me suis vendu. Je suis un vendu, et si je suis un vendu, je suis un prostitué. Je suis une prostituée. C'est la même idée, exactement. Donc c'est en aucun... Beaucoup de commentaires disent ça fait allusion aux prostituées sacrées qu'ont beaucoup fait fantasmer les exégètes et les archéologues, mais qui, heureusement ou malheureusement, ne représente pas une réalité absolument dominante. Là, c'est beaucoup plus profond que d'aller coucher avec une prêtresse de Vénus ou d'Aphrodite. C'est de vendre son âme.
Il y a, surtout dans l'Ancien Testament, associé au terme de prostitution, une idée de trahison.
Oui, tout à fait.
Quand les Hébreux adoraient, mettaient à adorer Baal, les dieux des Philistins, c'est une sorte de trahison.
Oui.
Ils se prostituaient.
Mais vous verrez que chez les prophètes, souvent, on parle plutôt d'adultère dans ce cas-là. Parce que c'est « j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amant ». Ton premier amant, c'était Yahvé, et puis tu t'es mis à aller à fricoter avec des Baals. Oui. Peut-être par amour. Si c'est par amour, c'est de l'adultère. Si c'est par intérêt, c'est la prostitution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelquefois, la nuance.
Prostitution au 21 et
adultère au 21. Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison que l'adultère arrive. C'est le vieux thème. T'as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que tu étais amoureux du Christ et puis t'as changé d'avis, puis t'es devenu amoureux de l'Empire et de sa puissance. Et puis, en fait, ce que dit le visionnaire de l'Apocalypse, c'est que sur ce point-là, il n'y a pas moyen de moyenner. Il n'y a pas de juste milieu. Parce que les deux systèmes sont des systèmes qui sont totalitaire d'une certaine façon, c'est-à-dire qui totalise, qui prenne l'ensemble de la personne. Ou bien tu es complètement dans la logique de l'Évangile, ou bien tu es complètement dans la logique de l'Empire, mais tu ne peux pas être à 50-50 ou à 60-40, etc.
Et d'ailleurs, il parle de, encore une fois, je ne sais pas comment il faut prendre ce terme, de Satan, donc c'est...
Oui. Alors, plusieurs fois...
L'adversaire n'est pas...
Oui, exactement. L'adversaire, ce n'est pas... c'est pas une figure... c'est aussi une figure historique particulière. Mais c'est une figure historique particulière en tant qu'elle est représentante d'une opposition radicale à Dieu, c'est-à-dire Satan, le diable.
En même temps, Satan s'est toujours associé au fait qu'il y a eu quelqu'un qui a été martyrisé à cet endroit-là.
Oui, c'est juste pour Smyrne et c'est juste pour Pergame. Or, pour Pergame, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que l'auteur des lettres connaît bien ces villes. Pergame, vous voyez, je sais où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. C'est pas que Satan avait un trône quelque part. Alors Pergame, ça vous évoque quoi? Est-ce que certains ont déjà visité le Pergamon Museum à Berlin? Et vous voyez que quand vous allez au Pergamon Museum à Berlin, vous apercevez qu'il y a une immense construction qui faisait 25 mètres de côté, qui était l'autel des sacrifices à Zeus. Ou à Zeus Jupiter, au Pergamon Museum, et c'était le plus grand hôtel où il y avait... C'est-à-dire que là, vous voyez, la base fait 25 mètres de côté, carré, sur 3 ou 4 mètres de haut, et ça, c'était le premier étage d'un hôtel qui était un petit peu en tour de Babel, vous voyez, comme ça. Donc c'était un hôtel impressionnant, et alors l'auteur de la lettre dit « ça, c'est le trône de Satan ». Un petit peu dans la même idée que dans le temple de Jérusalem, ce qui était le trône de Dieu, c'était l'Arche de l'Alliance. Hein, c'est là où le marchepied, où le trône de Dieu. Là, c'est le trône de Satan. C'est-à-dire, autrement dit, à Pergame, on dit, je sais ce que c'est, tu habites dans la Mecque ou la Rome, ou la Constantinople de Satan. C'est-à-dire, c'est là qu'est son trône. Et alors vous savez que si vous êtes allé à Pergame, vous voyez que tout autour, sur les quatre côtés de cette base de l'hôtel, il y a une gigantomachie, donc une sculpture à moitié en bas-relief et haut-relief qui représente des scènes mythologiques de la mythologie antique grecque, païenne. Hein. Donc pour l'auteur, c'est ça le trône de Satan. Il dit à cette église, je sais que tu habites là, hein, et que là, c'est un endroit spécialement chaud. Il y a d'autres éléments que je voudrais vous signaler qui montrent à quel point il connaît bien les choses. Pour la cinquième lettre, Sardes, tu as le renom de vivre et tu es mort. À Sardes, c'est là que passait la rivière Pactole. Et vous savez que la rivière Pactole, pendant toute une partie de l'Antiquité, elle a produit des paillettes d'or. C'est-à-dire Crésus a été à un moment roi dans cette région, d'où l'expression être riche comme Crésus. Mais il se trouve que après plusieurs siècles d'exploitation, là, cette source d'or facile a été tarie tout simplement, sans doute parce que la rivière Pactole avait cessé d'éroder le filon, la veine où passait l'or. Et du coup, on est dans une situation où Sardes avait la réputation d'être extrêmement riche et vivante, mais ça faisait quelques décennies ou siècles qu'elle était, elle était retombée. On voit bien que l'auteur sait à qui il écrit. De la même façon, J'accélère un petit peu parce que je vois l'heure qui avance. Si vous regardez à Philadelphie, il est parlé de porte, si je ne me souviens pas. Où ça? Quel verset? Alors voilà, d'abord, regardez l'unité. Le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David. La clé, c'est pour ouvrir une porte. Hein? J'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. J'ai ouvert la porte pour toi pour l'avenir. Bon, voilà. On sait qu'il y avait à Philadelphie un temple du dieu Janus. Janus, c'est le dieu à deux têtes. Il a une tête qui regarde vers l'avenir et une face, enfin pas deux têtes, à deux visages. Il a une face à l'arrière, une face à l'avant. Janus qui a donné notre mois de janvier. C'était le dieu qui présidait à la fermeture des portes de l'année écoulée et qui, avec sa tête, avec sa face regardant vers l'arrière, et avait une face vers l'avant pour regarder la nouvelle année et ouvrir les portes de la nouvelle année. À Philadelphie, il y a un sanctuaire du dieu Janus. Et notre auteur, Jean de Patmos, va écrire une lettre à l'église de Philadelphie en se servant de la symbolique de la porte. Jésus est celui qui a la clé de la porte de David, et la porte qu'il ouvre, c'est une porte que personne ne peut ouvrir ou fermer, sous-entendu, en tout cas pas le dieu Janus. Celui qui tient les clés de la porte, c'est Jésus-Christ, fils de David, qui a les clés de David. Et ce n'est pas le dieu Janus que tu as chez toi. De la même façon, à Laodicée, on lui dit, au verset 18, c'est la septième lettre, « Je te conseille d'acheter chez toi de l'or purifié, etc. etc. » Et un collier, à la fin du verset 18, « Et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. » Il se trouve que la ville de Laodicée était connue dans tout le monde antique pour son collier ophtalmique. l'auteur des lettres va à chaque fois indiquer, montrer qu'il connaît les particularismes de l'Église à laquelle il écrit et va faire passer son message en utilisant les particularismes de l'Église à laquelle il écrit. C'est-à-dire que Laodicée est aveugle et pourtant c'est eux qui font le meilleur collier de l'Antiquité. Autrement dit, le Christ est un meilleur collier que celui que vous vendez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pardon.
Vous voyez aussi, avant, quelque chose qui me frappe, c'est que chaque fois que l'auteur dit qu'il faut que tu changes, c'est changer radicalement.
Exactement.
Radicalement. Autrement dit, c'est pas changer un petit peu pour améliorer le rapport avec l'autre, c'est pas mettre de l'eau dans son vin, c'est changer radicalement.
Vous avez...
Ça, c'est frappant parce que dans toutes les lettres.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que il dit pas vous devriez résister un peu plus. C'est-à-dire qu'il a conscience, à tort ou à raison, mais on l'a vu, quand on est dans des situations où c'est la vie et la mort qui est en jeu, où c'est la référence à l'idéologie impériale ou à la pensée unique de l'époque ou le Christ, pour lui, dans son idée, il y a incompatibilité. Donc c'est on n'est vraiment pas dans une leçon de morale. Une leçon de morale, ça veut dire tu ne fais pas complètement bien, tu vas essayer de faire un peu mieux, tu vas essayer de t'améliorer. Là, vous avez tout à fait raison de dire il y a un changement de paradigme. C'est de dire sur quelle idéologie tu fondes ta vie. Et c'est ou bien l'évangile, ou bien l'idéologie de l'Empire. Mais tu ne peux pas avoir un pied dans chaque. Pardon ?
Pas de déviationnisme.
Il n'y a pas de déviationnisme. Alors, évidemment, ça peut paraître... C'est violent. C'est violent parce que nous savons tous que nous sommes dans des situations où nous composons et où nous devons composer. Hein ? D'ailleurs, l'auteur de l'Apocalypse ne l'ignore pas. Il sait qu'il a à la fois une tendance à la résistance et puis une tendance à la composition. Et puis il essaie de... Mais évidemment, quand il va le présenter, il ne va pas dire « Vous devriez résister un peu plus. »
Alors, c'est ce qu'on retrouve dans la dernière lettre.
Oui.
Quand il dit « Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant », ça veut dire « tiède, hein.
Oui.
Celui qui est tiède ne change pas radicalement. »
Exactement. Celui qui est, qui est tiède, il est dans le juste milieu, dans l'accommodement, dans le compromis, dont on sait pourtant que c'est... Que c'est ce qui permet de vivre ou de survivre des fois. Hein? Mais il a un message à dire. Mais c'est la même. Nous, ça nous choque parce que là, c'est l'Apocalypse. Ah, il est violent. Mais Jésus, quand il dit si tu veux sauver ta vie, que celui qui peut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, c'est aussi radical. Il dit pas il y a un moyen de. De sauver son âme tout en sauvant sa vie.
C'est le verbe qui est employé parce que dans un texte, il est traduit par « change radicalement » et dans l'autre « repens-toi ».
Alors, le verbe, c'est « métanoïa ». C'est le verbe qui est traduit ailleurs par « conversion ». C'est effectivement, Madame fait le geste, c'est le retournement à 180 degrés. C'est la conversion, si vous faites du ski, c'est la chose qui est difficile à faire. On a les skis qui sont dans des rails, comme ça. Puis à un moment, il faut arriver à mettre... le ski de la jambe droite parallèle dans l'autre sens et l'autre pied. En général, on se casse la figure. C'est parce qu'il s'agit de partir radicalement dans l'autre sens. Ça, c'est une conversion au ski. Hein? Donc, voilà, c'est la métanoïa, c'est le changement à 180 degrés, le changement de direction à 180 degrés, et on trouve bien. C'est pour ça d'ailleurs que une des traductions dit changer radicalement. C'est pas réoriente, c'est pas 5 degrés à gauche ou 5 degrés à droite. C'est 180 degrés, c'est tu vas dans cette direction-là, je te demande de faire demi-tour. Mais là, ceci dit, on retrouve la parole des prophètes qui dit ils se sont écartés du chemin de leur père, il faut qu'ils y reviennent. Il s'agit de remettre ses skis ou ses pas sur les bonnes rails. Sachant qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre devant ou derrière. Et on ne peut pas être orthogonal. Dans cette logique-là. Juste peut-être une dernière indication, parce qu'on arrive au bout. Si vous regardez le centre quasi géographique, la lettre du milieu est au milieu de la lettre du milieu, à savoir au milieu de la lettre à Thyatire, au verset 23. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et à chacun de vous je rendrai selon ses œuvres. L'expression toutes les églises est juste là, en plein milieu, je dirais en plein milieu géographique, hein, au croisement des diagonales. C'est-à-dire que, et ça nous fait revenir au début de notre après-midi, il y a bien cette église extrêmement particulière qu'on a pu situer dans une petite région d'Asie mineure. Mais derrière ce chiffre 7 églises, parce que peut-être qu'il était aussi responsable d'une huitième, c'est la totalité. C'est-à-dire qu'au travers de ces 7 églises particulières, c'est l'ensemble des communautés chrétiennes qui sont visées. Et c'est pour ça qu'il évoque toutes les églises. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans l'Apocalypse, ce jeu entre une situation particulière de combat et une valeur universelle en termes géographiques. Et donc... ce serait trop peu de dire il s'est adressé à ces 7 églises et la paroisse de l'Oratoire du Louvre et l'église de l'église protestante unie de la région parisienne ne fait pas partie de ces 7, donc elle n'est pas concernée.
Si on compare l'enseignement de Jean de Patmos avec celui de Paul, il faut que le langage est très différent. Il n'insiste pas la même chose que Paul.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On pourrait dire que, alors même que je crois que fondamentalement, ils ont la même théologie, mais ils sont dans des situations différentes. C'est-à-dire que pour Jean de Patmos, à la fin du 1er siècle, il s'agit d'outiller spirituellement les chrétiens pour résister à la séduction de la pensée dominante de l'Empire. Alors que pour Paul, au milieu du 1er siècle, on est 50 ans avant, et Paul vit sous Néron, mais sous le Néron, première façon, en tout cas au début, qui était tout à fait éclairé, avec Sénèque comme conseiller. Et pour Paul, le combat n'est pas un combat sur la place publique politique, c'est un combat interne contre ces esclavages intérieurs. Et les séductions qui peuvent être amenées. Donc le champ de bataille n'est pas le même chez Paul et dans l'Apocalypse. Vous avez raison.
Chez Jean, il faut sauver la mise finalement. Si à ce moment-là, le christianisme ne résiste pas, ça disparaît.
Exactement. Chez Jean, il s'agit de il écrit alors même qu'on n'est pas encore rentré dans les grandes périodes de persécution. Mais il a ça de visionnaire, c'est qu'il sent que la pensée de l'Évangile est incompatible avec l'idéologie de l'Empire. Et que fatalement, il y aura un conflit et les prémices sont déjà là. Et il faut l'assumer. Et il faut être prêt.
Et là, on peut penser qu'à Éphèse, Smyrne, etc., c'était des juifs convertis, il y avait déjà une diaspora. Mais qui est-ce qu'étaient ces chrétiens d'un siècle après ?
Alors, c'était sans doute déjà des communautés qui étaient mixtes, pagano-chrétiennes et judéo-chrétiennes. Mais ceci dit, on voit à plusieurs reprises que la proximité de la synagogue est là et que les conflits sont loin d'être éteints avec la synagogue dont on vient de s'extraire. Et en particulier à cause du fait que, quand on en a été mis dehors, on s'est retrouvé sans la protection accordée à la religion juive, pour lequel, finalement, les Romains avaient renoncé à contraindre les Juifs à adorer l'empereur comme Dieu, parce que c'était plus coûteux pour la paix civile que de les laisser croire à leur particularisme.
Vous avez accepté qu'il y ait une dérogation à
leur... Exactement, c'était une dérogation pour... c'est pour ça que quand Pilate est un gouverneur trop sévère en Palestine, une délégation de juifs va aller se plaindre à Rome et on va le faire revenir. Parce que l'intérêt de Rome, ce n'est pas d'être en guerre perpétuelle avec ses juifs. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un bon Noël.
Merci.
À l'année prochaine. Et nous nous retrouvons donc le 24 février.
Janvier,
24 janvier, et nous lirons simplement deux ou trois chapitres de l'Apocalypse, 6 à 9. Ceux qui voudraient se préparer, je les invite à lire les chapitres 4 à 11, comme ça vous aurez l'ensemble. Bon Noël à tous et à bientôt. Merci.